Annie Lazarus et Laurent Septier sont les auteurs de Pékin Art Contemporain en 11 parcours, paru aux éditions Images en Manœuvre. C'est un merveilleux petit vade-mecum de l'art contemporain chinois qui constitue un guide indispensable à glisser dans son sac à dos pendant le voyage et à lire aussi bien avant qu'après. Quand j'ai pris connaissance de votre guide, je me suis rendu compte que c'est justement le guide qui m'avait manqué en 2005, quand j'ai découvert le Pékin de l'art contemporain, pour aller y monter un projet de résidence d'artiste pour la ville de Lille. À cette époque, pas vraiment lointaine, les chauffeurs de taxi ne savaient pas aller à Dachanze, au 798, alors qu'aujourd'hui, ils y vont presque les yeux fermés. Annie Lazarus et Laurent Septier, comment est née l'idée de faire un guide de l'art contemporain à Pékin? Annie?
Au départ, c'est notre éditeur qui avait cette idée en tête de faire un guide sur l'art contemporain à Pékin, et on a été mis en relation par la personne qui m'a dirigé sur mon master 2 qui concernait la critique d'art chinoise, voilà, et donc ça s'est décidé comme ça. Et ensuite on a l'idée du guide, disons le contenu, c'était pour faire justement le livre qu'on n'avait pas eu quand on a commencé à s'intéresser à l'art contemporain à Pékin. Voilà.
Donc voilà, vous avez fait le guide dont j'avais besoin, c'est merveilleux. Et dont tous les gens qui vont à Pékin, et d'ailleurs pas forcément qui s'intéressent à l'art contemporain, mais c'est aussi une merveilleuse manière de découvrir tous les endroits un peu ignorés de la ville, Laurent Septier.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez abordé le nom de Dachanze, qui était inconnu des chauffeurs de taxi et qui maintenant effectivement est connu de tout le monde. C'est un lieu au-delà de l'art contemporain qui donne vraiment un raccourci saisissant de ce qu'est la Chine aujourd'hui et de ce qu'elle a été ces 10 dernières années pour Dachanze, mais en fait ça va plus loin, c'est 50 dernières années. C'est-à-dire Dachanze est une ancienne usine qui était construite donc par des Allemands de l'Est, qui renvoie une esthétique du Bauhaus revisitée par la Chine. Des parties de l'usine fonctionnent encore. Donc on se retrouve, puisque j'ai écrit un petit recueil de souvenirs de mes voyages depuis presque 30 ans en Chine.
Ah oui, tout de même.
On y rencontre donc ce que j'appelle des touristes occidentaux tout envuitonnés font presque la conversation avec les ouvriers des entreprises encore en fonctionnement au milieu des galeries.
Oui, tout à fait. Et moi, j'ai le souvenir d'être monté dans une usine en sachant pas trop si c'était... J'ai pris un escalier en me disant, bon, peut-être qu'il y aura une galerie, peut-être qu'il y aura... Et en fait, je suis arrivé dans un atelier de fabrication de peinture en bâtiment. Et les ouvriers avaient pas l'air plus étonnés que ça. J'ai pu me promener au milieu d'eux. Je suis redescendu. J'ai dit, bon, c'était pas une galerie. Donc, ça, c'est sûr que c'est une expérience assez étonnante. D'où vous vient, tous les deux, cet intérêt pour la Chine, Annie? En parlant très fort dans le micro, et quand on vous entend pas, c'est pas la peine de répéter, finalement.
Alors, pour moi, ma passion pour la Chine, elle remonte à 1978. Et je la dois à Jacques d'Ars, qui avait traduit Au bord de l'eau. Et je suis tombée dans ce roman, ça a été vraiment une découverte, et je me disais, il faut absolument aller dans ce pays, quoi. Il y en a attendu 1986 pour pouvoir enfin aller en Chine.
Donc vous, c'est la littérature qui
tout
vous a amené
à la
Chine.
La littérature plutôt que la politique. Laurent, c'était peut-être la politique un peu.
C'était l'époque, oui.
Oui, je dois dire que quand j'avais 15 ans, ce qui ne constitue pas vraiment une excuse, mais quand même je vais prendre ce prétexte comme excuse, je me sentais très maoïste en ne sachant bien évidemment, je n'avais pas lu la moindre ligne de Marx, encore moins de Mao, donc on peut dire que c'est une situation un peu cocasse. Je dois dire, quand j'avais 15 ans, c'était en 68. Donc les choses. Mais le deuxième point, c'est exactement la même chose que Annie. À tel point d'ailleurs que quand l'un est arrivé au tome 2, puisque nous avions l'édition de la Pléiade, ça allait mieux, parce que quand on était tous les deux au tome 1, on se battait littéralement pour qui allait lire ce soir.
Formidable cet amour commun de la Chine que vous entretenez depuis si longtemps. Pour revenir à l'art contemporain chinois, si on devait faire un petit peu d'histoire, il faudrait rappeler que le contexte politique et le contexte artistique sont indissociables en Chine. Annie?
Moi, c'est quand même mon point de vue, en effet, parce que je pense que c'est à partir de 1979, quand la Chine s'est un petit peu ouverte avec la politique de Deng Xiaoping, qu'il a commencé à se passer des choses, des revues ont pu, ils disent, ressusciter, hein, en chinois c'est le terme qu'ils utilisent, les revues ont ressuscité et il y a eu à nouveau des expositions un petit peu sauvages. Hein. On parle souvent des artistes des étoiles. Ai Weiwei, à l'époque, était le plus jeune d'entre eux, hein, et qu'on exposait d'une manière assez sauvage à l'extérieur du musée avant d'être autorisé par les autorités à exposer l'année suivante à l'intérieur du musée. Bon, je pense que en Chine, sûrement l'art et la politique sont liés depuis 1942 et même avant avec Lu Xun aussi, hein, qui voyait la littérature comme une manière de transformer le pays. Hein. Donc je pense que c'est bien ancré.
Il y a une grande tradition.
Et même effectivement, c'est une très très longue tradition, puisqu'il est de notoriété publique, je dirais, que depuis l'Antiquité. Souvent la poésie, en particulier la poésie plus que la peinture, peut être une manière de protester pour des lettrés qui sont aussi des hommes politiques et qui ne pourraient pas protester directement contre, par exemple, la corruption, qui elle aussi, malheureusement, est une très longue et très antique tradition en Chine.
Alors on a cité le mouvement des étoiles tout à l'heure, c'est Annie qui l'a fait, c'est 79, hein, je rappelle. Qui veut rappeler juste ce qu'est le mouvement des étoiles ? Annie, le mouvement des étoiles.
Sur le mouvement des étoiles, je pense que Annie est plus compétente que moi, parce que je dois dire, mais elle va le dire, que artistiquement, leur production n'est pas très bonne.
Bon, c'est pour ça. Oui. Alors allons-y.
Oui, disons, ce qui était important dans ce mouvement, c'est le fait d'abord d'avoir exposé sans l'autorisation officielle, en dehors du système officiel qui est encore présent en Chine aujourd'hui.
Donc une exposition sauvage.
Voilà. Et après, quand même, bon, je pense qu'en France, on a des artistes qui sont venus après 89 et qui habitent en France, hein, de ce mouvement. Il y a Ma Decheng, par exemple, il y a Wang Keping. Hein. Disons, au niveau... Bon, pour les artistes, ce qui était important, c'est qu'ils aient choisi des sujets librement. C'était la première fois aussi qu'ils se donnaient le droit de peindre des paysages. Bon, c'est un type de peinture qu'on pourrait rattacher chez nous au fauve, un petit peu Picasso, des choses comme ça. Plutôt au fauve quand même. Hein.
Ils aiment bien les impressionnistes aussi.
Voilà, pour eux, c'était quelque chose, une coupure. Violente avec le réalisme socialiste auquel ils étaient obligés, quoi.
Mais finalement, ce qui a libéré les Chinois, paradoxalement, c'est la pénétration des œuvres d'art venues d'Occident et qui étaient interdites.
Oui, je pense que la première grande expo qui a eu un impact, c'est celle de Rauschenberg. Et je crois que c'était en 85 seulement.
Ah oui, donc les étoiles étaient vraiment des très très grands précurseurs.
Avant, le statut de l'artiste, il n'était pas artiste, il était travailleur des arts et des lettres. Il était salarié par l'association une fois qu'il avait été coopté et que sa candidature avait été retenue. Et il était payé tous les mois qu'il travaille, qu'il écrive, qu'il était écrivain ou qu'il écrive pas, qu'il peigne ou qu'il ne peigne pas. Et il recevait des commandes de l'État.
Un artiste donc, fonctionnaire.
Voilà.
On a parlé de la censure. Peut-être Laurent. Où en est la censure aujourd'hui ?
C'est très compliqué. C'est très très compliqué parce qu'en fait, la censure elle-même est une tradition en Chine. Quand tout à l'heure je parlais de l'utilisation possible de la poésie comme forme de protestation, ça contient déjà en soi-même une idée que je pense on voit très clairement répandue de nos jours, qui est celle de l'autocensure. Alors l'autocensure, elle est peut-être moins présente chez des jeunes artistes, comme Macke par exemple,
Chen Guang,
oui voilà, peint qui, actuellement d'après les photographies qu'il a faites après les incidents de Tiananmen. Donc ça, c'est possible de le faire juste quand il y a par exemple les Jeux Olympiques, la police lui demande de se déplacer de quelques kilomètres, mais on le laisse faire. Par contre, ça peut être d'autres gens que les artistes qui font de l'autocensure. De l'autocensure préventive. Un imprimeur, par exemple, a imprimé un catalogue d'un jeune artiste qui peignait d'après des photos pornographiques, et l'imprimeur a pris l'initiative de mettre des carrés noirs sur toutes les parties sensibles. Donc, il y a tout un jeu pour essayer d'aller aussi loin qu'on peut, mais quand même.
Sachant que tout n'est pas possible. Est-ce qu'il y a encore des artistes officiels ?
Hélas, oui. Il y a des artistes officiels.
Qu'on ne connaît pas chez nous, en fait.
Qu'on ne connaît pas chez nous. Et que,
mais il vaut mieux.
il vaut mieux parce qu'on a assisté, je crois que c'était il y a 2 ans, à une très vaste exposition des 60 ans de peinture chinoise depuis la Libération. On a donc vu plein d'artistes qu'on ne connaissait pas, qui présentaient essentiellement des choses en peinture, en gravure, en fait, toutes les techniques, dirons-nous, traditionnelles, d'un peuple en joie, en liesse, en particulier pendant la Révolution culturelle. Il rigolait, il vivait vraiment
dans la liesse.
Voilà. Et il y avait, comme faire valoir, 2-3 artistes contemporains qu'on connaissait, mais avec une absence de performance, absence de vidéo, absence... il y a un art officiel qui, je pense, va se porter peut-être de plus en plus mal, mais pour le moment, il a encore des beaux jours devant lui.
Bon, ben voilà, ce qu'on ne sait pas toujours par ici. Alors, vous êtes, Laurent Septier est enseignant, Annie Lazarus peut-être pas, mais vous êtes assez proche des problématiques de l'enseignement. Je trouve que l'enseignement de l'art en Chine surprend énormément un Français. Alors, comment s'y passe cette formation qui est quand même très académique, Laurent Septier ?
C'est très surprenant. Alors, c'est très surprenant pour des tas de raisons. Par exemple, la question du nombre. Déjà, ça, c'est une surprise en soi. Concours d'entrée des Beaux-Arts de Hangzhou, pour entrer en première année, moyenne des candidats, 67 000 candidats pour 1 000 places. Donc, 67 000, c'est la population de Bourges, par exemple. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi les enseignements restent assez compartimentés, parce qu'avec tant de monde... On ne va pas pratiquer, par exemple, ce qu'on fait chez nous, qui est la discussion directe sur les travaux. Donc, c'est plus facile de mettre les gens devant des modèles. Cela dit, ça donne des choses extrêmement curieuses. Parce que non seulement il y a ce compartimentage, mais quand on commence les études en peinture, on fait 4 ans en peinture. Pas question, si on fait de la peinture, qu'on fasse de la vidéo. Donc, les artistes diplômés qui en sortent ont un savoir-faire technique assez exceptionnel. Mais ce qui est drôle, c'est que ceux qui se font connaître comme artistes, souvent, sont connus comme artistes dans un moyen, mais qui n'a strictement rien à voir. Ceux qui font de la peinture deviennent des vidéastes connus.
Ça fonctionne bien comme formation.
Finalement, ça fonctionne bien. C'est assez paradoxal. Parce que c'est quand même extrêmement académique. Vous avez des ateliers, vous avez des centaines d'étudiants en train de faire des modelages à l'échelle 1 d'un modèle nu au milieu de la salle.
Ah bah oui, et puis il y a aussi les plâtres. Ça, j'ai vu ça. Et puis, il y a le dessin académique, on dirait du Ingres, par exemple. Il y a des millions de Ingres en Chine aujourd'hui. C'est assez bizarre. Le coût des études est très élevé aussi.
Oui. Mais je pense qu'ils ont, ces artistes qui sont formés comme cela, ils ont des débouchés en Chine. Parce qu'il existe, nous, on n'a jamais pu visiter, hein, il existe des usines où les gens peignent des reproductions qui sont après vendues aux États-Unis, dans des hôtels de luxe, etc. Je pense que c'est un savoir-faire qu'ils peuvent après monnayer, quoi.
Mais est-ce qu'on peut encore les appeler artistes après ?
Bien sûr que non.
Mais ils auront du travail.
Je pense, oui. Mais moi, j'aimerais bien visiter ce type d'usine, mais on n'a pas réussi à...
Ce sera pour le prochain voyage, alors. Alors, il y a un phénomène typiquement pékinois, et chinois, mais surtout pékinois, c'est le village d'artistes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept assez étranger aux Occidentaux, Laurent Septier ?
Alors, quand on me pose cette question, comme j'ai vécu, pas très longtemps, trois semaines, dans un de ces villages d'artistes, ma réponse est toujours mitigée, parce qu'il y a... la représentation que je m'en faisais avant d'y aller et évidemment celle que j'ai après.
Non, on va faire celle d'après, oui.
Alors, quelques mots sur celle d'avant. Quand même, je voyais des villages, je voyais quelque chose de très bucolique. Et en fait, à chaque fois que je fais ce jeu de mots, ce que j'ai vu, c'était plutôt bucolique, néphrétique. C'est-à-dire que ce sont des... on dirait des camps militaires. D'ailleurs, pour certains, c'est d'anciennes usines, donc avec les bâtiments où logeaient les ouvriers qui ont été transformés. Donc des alignements de rues à perte de vue. C'est d'une tristesse à mourir, d'aspect. Parce qu'après, quand on rentre chez les gens, ils sont très accueillants, À l'intérieur, ça peut, suivant la notoriété et les revenus de l'artiste, être très spartiate ou d'un luxe extraordinaire. Et eux s'y sentent bien. Ils s'y sentent bien parce qu'eux se sentent à la campagne. Mais pour nous, ça ressemble à la campagne comme, Suresnes ou Pierrefitte dans la banlieue parisienne.
Et en pire, évidemment.
Je peux ajouter, Annie, le mot chinois, pour parler de ces lieux, c'est le mot camp. C'est le même mot que le camp militaire. Hein. C'est ying, c'est camp. Hein.
Oui, ça veut tout dire. De toute façon, la Chine n'est pas un paradoxe près. Donc, dans votre ouvrage, j'ai senti combien l'art contemporain a été fécondé par la tradition pour donner naissance à des choses un petit peu hybrides qui nous échappent totalement. Annie Lazarus, votre avis là-dessus?
Oui, tout à fait. Je pense que l'exemple le plus connu, mettons, en France, c'est le travail de Huang Yongping, que je pense que beaucoup de gens connaissent, et qui s'inspire de toute la philosophie classique chinoise, le I Ching, des choses comme ça, quoi.
Il y a aussi le retour du confucianisme, qui est important, peut-être aujourd'hui.
Oui.
Alors le retour du confucianisme, là aussi, puisque vous parliez de contradictions et de choses qui coexistent assez bizarrement, c'est très probablement téléguidé d'une certaine manière par le gouvernement. C'est très politique. C'est une manière de reprendre main d'une façon différente sur son peuple. Comme maintenant, évidemment, les idéaux communistes se sont quand même un petit peu effondrés, puisqu'ils ont fait eux-mêmes, malheureusement, je dirais, la preuve de leur échec. On revient à des valeurs plus ancestrales qui, de surcroît, flattent une donnée considérablement développée en Chine, qui est le nationalisme. Et là, je veux dire que le confucianisme, je le vois, moi, plutôt revenir comme quelque chose plutôt de réactionnaire que...
d'ouverture. En fait, le maître mot en ce moment en Chine, c'est construire une société harmonieuse, reussie. Et ce qui est amusant, c'est que c'est synonyme de homophone de crabe. Et quand Ai Weiwei a eu son ennui là récent où on lui a démoli son studio de Shanghai, il a fait organiser, parce que lui il pouvait pas s'y rendre, il était maintenu en résidence chez lui, un repas. Un pique-nique pour manger des crabes qui se prononcent pareil que Rossier, et en fait c'est un jeu de mots qui permet sur internet entre autres de contourner, de se moquer, voilà,
et les jeux de mots comme les adorent les Chinois. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous parlez, c'est bien plus qu'un guide d'ailleurs, hein, c'est aussi un petit guide sur la civilisation chinoise, sur l'histoire. Vous parlez du rôle des symboles, des nombres et des animaux aussi. Alors, j'ai pas vu le crabe, j'ai peut-être échappé, mais le symbole des nombres est important, Laurent, tout à fait.
Oui, alors les nombres, d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué pour un occidental de s'y retrouver, parce que c'est une symbolique je vais le dire d'une façon résumée qui peut paraître totalement bête, où tout est lié, mais quand tout est lié, ça veut dire vraiment lié par des liens extrêmement stricts. Qu'on retrouve aussi dans la cuisine. Si dans tel plat il y a de l'oignon au lieu de l'échalote, c'est parce que c'est lié aux cinq éléments, aux saisons, au métal, donc aux organes du corps humain. Et si on touche à un, on touche à l'ensemble et du coup rien ne va plus.
Et puis tout a une signification. Oui. Alors ce qui est amusant, c'est les numéros de téléphone. Arrive.
C'est vraiment étrange, quoi, parce que chez nous, on fait pas trop attention.
C'est aussi un moyen pour faire payer plus cher certains numéros.
Oui. Mais j'avais remarqué à Hong Kong, entre autres, les plaques d'immatriculation de voitures, elles se revendent dans le journal et ça atteint des prix vraiment astronomiques en fonction du numéro, quoi. Si c'est un numéro qui porte chance, c'était des sommes fabuleuses pour une plaque d'immatriculation de voiture, quoi.
On peut rappeler le chiffre 8 qui porte bonheur, de base.
9, voilà. Tout du 9.
Et puis le 4
pas
à éviter. 4.
Alors pas de 4, il n'y a pas de quatrième étage, il n'y a pas de chambre 4.
Alors ce qui fait que quand je suis arrivée en Chine pour acheter mon numéro de téléphone, bah, j'ai regardé, selon la liste, en fait, tout en haut, c'était les plus chers, et puis il y avait que des 8 et des 9, et puis tout en bas, bah, il y avait des 4, alors j'ai pris le moins cher, évidemment, parce qu'en bonne occidentale qui se respecte. Mais c'est vrai que les Chinois dans le magasin m'ont regardé d'un drôle d'air.
Oui, mais cela dit, quand même, puisque j'ai moi-même un 4 dans mon numéro de téléphone, on m'a dit que mon 4 était bien placé.
Ah oui, oui, bon, alors ça, je ne sais pas trop. Pour revenir à votre guide, comment s'est effectué le découpage de la ville? Sur quels critères vous avez découpé cette ville?
Alors, en fait, sur le critère, je dirais, des regroupements qui, au fur et à mesure de l'évolution relativement spontanée, finalement, qui s'est produite, de migration, je dirais, d'artistes qui sont passés, donc, par exemple, du Palais d'été, à la fin des années 70, d'où ils ont été expulsés, où il y avait une communauté d'artistes qui sert encore d'ailleurs de modèle, un peu d'idéal, d'âge d'or en quelque sorte, de cette espèce d'esprit un peu contestataire. Donc ils ont migré à Songjiang et puis une partie a migré à Dachanzhou par exemple. Donc on a tenu compte finalement des regroupements géographiques qui sont faits comme ça. Donc tout le secteur est. Est près de la ville, sur Dachanzhou, Zhaochangdi,
sur la route de l'aéroport.
Sur la route de l'aéroport. D'autres découpes ont été faites en fonction d'itinéraires faisables, par exemple est-ouest en métro, voilà, oui. Ou nord-sud en suivant une ligne de métro. Mais c'est vrai que ce sont des regroupements, curieusement, en dehors desquels on trouve très peu de choses.
Oui. Alors je l'ai trouvé très pratique, vous indiquez évidemment les bus, les métros forcément, les bus. Pour aller à Songjiang par exemple, vous dites non, c'est pas la peine de prendre le taxi, ça sera bien trop cher. Prenez donc le bus. Bon, moi je vous avoue que je ne parle pas chinois, donc prendre le bus à Pékin, il faut vraiment que je connaisse bien mon itinéraire. Mais bon, c'est un petit peu l'aventure de chacun en Chine. Alors, dans votre ouvrage, vous proposez aussi des chapitres plus généralistes. Il y en a un sur le culte de Mao.
Je dois dire qu'effectivement...
C'est vous qui teniez au chapitre du culte de Mao, voilà, d'accord.
Il faut dire que son image, alors je ne peux pas vraiment dire paradoxalement, c'est plus compliqué que ça, mais on va dire pour nous, paradoxalement, encore très présente. Parce qu'on lui a quand même reproché pas mal de choses, mais le bilan actuel et autorisé des reproches est qu'il aurait fait 30% d'erreurs et 70% de choses extraordinaires.
Ça, c'est vraiment la ligne du parti.
Voilà, c'est vraiment la ligne du parti, absolument. Mais donc du coup, il se maintient comme une espèce de figure tutélaire. Alors, est-ce que c'est la figure du père? Je ne sais pas. D'un autre côté, c'est vrai que je vois très mal la place qu'il admène sans son portrait de Mao. Ce serait un peu pour moi comme le champ de Mars et son la tour Eiffel, enfin je vous exagère peut-être un petit peu. Mais alors il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que l'image de Mao a ressurgi un jour, il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus quelle ville, un bus a eu un accident pas possible avec un taxi, enfin, il y a eu des morts. Et en fait, le chauffeur d'un des véhicules qui s'en est sorti indemne avait un portrait de Mao suspendu.
Ah, voilà.
Donc les Chinois étant très superstitieux, alors je ne vais pas tout ramener à ça.
Un petit peu quand
mais
même.
Mais quand même.
Oui, c'est vrai. Alors donc si Laurent a voulu son chapitre Mao, peut-être que Annie n'a pas oublié la cuisine chinoise.
Ah non, la cuisine chinoise c'est moi.
C'est vous aussi. Bon, alors voilà. Bon.
Ce qu'on a appelé Varia, c'est Laurent. C'est
d'accord.
Tout.
Et Annie, c'est tout le chapitre art contemporain. Donc la cuisine, c'est quand même très très utile et très pratique, effectivement. À qui s'adresse votre guide?
Alors,
Annie.
Nous, on a visé des gens qui aimaient la Chine et qui n'aiment pas forcément l'art contemporain, mais leur donner comme ça un petit peu des clés pour s'intéresser à l'art contemporain. Les étudiants des écoles d'art, parce que beaucoup demandent, ont envie de partir là-bas en résidence ou autre. Tous ceux qui s'intéressent à l'art mais qui connaissent pas la Chine. Il y en a quand même beaucoup encore, voilà quoi. C'est vrai que c'est un public un peu ciblé quand même, hein. Et puis tous ceux qui sont curieux par nature.
Alors ce qu'on n'a pas listé, parce que ce serait peut-être long, mais quand même, les lieux incontournables, ceux-là tout de suite, oui. On a évoqué Dachanzhe, mais bon, Songjiang, oui. Les lieux incontournables, les autres
Je pense que le musée Today Art Museum devient un lieu incontournable. Il y a de nouvelles galeries qui se sont ouvertes depuis la sortie du guide. Là, on y est retourné.
Oui, ça va très vite.
Cet automne,
hein.
Il y avait de nouvelles galeries. Et les accrochages sont vraiment de qualité. On sent que le projet commence à prendre vie. Hein, c'est un projet ambitieux, hein, comme toujours en Chine. Hein. Encore beaucoup d'espace vide, mais bon, ça commence à...
Oui, je pense aussi à Cao-Changdi, qui se trouve donc un tout petit peu plus au nord, enfin, au nord de Dachanze, sur la route de l'aéroport. C'est à 5 minutes de bus ou de taxi. Ou pour reprendre à peu près la même chose que ce que dit Annie, bon, là, il y a une plus grosse proportion de galeries occidentales qui sont implantées. Qualité des accrochages, qualité des travaux présentés. C'est mille fois plus intéressant que Dachanze sur le plan artistique.
Bah, c'est quand même un petit peu ça qu'on cherche. Et pour les villages d'artistes, je pense que votre cœur penche vers Tsongjong.
Oui. Eh ben, c'est-à-dire, en fait, c'est le seul qu'on connaisse bien.
Bah, c'est souvent celui qu'on connaît
nous,
bien.
Nous, ce qu'on aimait, c'était celui de Suo Tiatsun, mais il a été démoli en janvier 2010.
Oui, ça, je sais. Voilà, bon, tant pis alors. Hein.
Celui de Rogochang aussi, il est sympathique.
Est-ce que vous avez en projet d'autres guides sur le même modèle? Vous pourriez faire Shanghai, par exemple?
Oui, mais il faudrait qu'on ait un éditeur, parce que je crois que Image en Manœuvre ne nous suivra pas.
Ah bon? Vous êtes sûr?
Je pense.
Bon, alors on va faire un appel à éditeur, alors.
Ah oui, très volontiers, parce que moi, sur Shanghai, je suis partant.
Hong Kong, moi, je suis partante sur Hong Kong, Macao, Canton, Shenzhen.
Bon, bah voilà. Ça vous fait des beaux projets en perspective, et puis des villes extrêmement intéressantes pour nous tous à visiter. Annie Lazarus et Laurent Septier, merci. Je rappelle donc votre ouvrage totalement indispensable pour qui s'intéresse à l'art contemporain en Chine, Pékin, art contemporain en 11 parcours, aux éditions Images en Manœuvre.